Je suis à la page donc Tzadik Bet Amoud Bet. Tzadik Bet Amoud Bet. Tzadik Bet Amoud Bet. Tzadik Bet Amoud Bet. Si on prend l'édition Vilna, c'est à partir du bas de 4, 6, 8, 10, 11 lignes. 11 lignes à partir du bas dans l'édition Vilna. Dans l'édition du Rav Steinsaltz, que certains d'entre vous ont devant les yeux, ce n'est pas à la 11e ligne à partir du bas, c'est autrement. Mais comment vous dire? C'est probablement dans la page de gauche, tout d'abord. Oui, bien sûr, parce que dans l'édition du Rav Steinsaltz, chaque page est divisée en deux pages. Donc, si vous arrivez au Tanoura Banane, Bécha'a, voilà, Tanoura Banane, Bécha'a. Exactement, vous y êtes, vous voyez, c'est tout simple. Bon, Tanou Rabanan, nos sages l'ont enseigné. Bécha, Sheipil, Nebuchadnezzar, Arasha, et Hanania, Michel, Vazaria, Likivsha, Naesh. Lorsque Nabucodonosor, le méchant, a précipité Hanania, Michel et Azaria dans la fournaise. De quoi s'agit-il? C'est un épisode que vous connaissez certainement parce que vous, en tant que bon juif, vous avez certainement lu toute la Bible, n'est-ce pas? Vous avez lu tout le Tanakh. Et donc, vous savez, comme moi, que dans le livre de Daniel, il est question là-bas de trois jeunes gens du nom de Hanania, Michaël et Azaria, qui ont été jetés par le roi Nabucodonosor dans la fournaise. Pourquoi est-ce qu'ils ont été jetés dans la fournaise? Parce qu'ils refusaient, merci beaucoup, ils refusaient de se prosterner devant la statue qu'a fait le roi. N'est-ce pas? Le roi voulait donc obliger tout son empire à rendre un culte unique à une statue qu'il avait érigée dans la plaine de Doura. Et Hanania, Michaël et Azaria n'ont pas accepté et donc ils ont été précipités dans la fournaise. Ils en sont sortis miraculeusement, protégés par un ange. C'est ce qui est écrit dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Et au moment où ils sont jetés dans la fournaise, Amarlo Akadosh Baruchu Yechezkel, le Saint béni soit-il, ordonne à Ézéchiel. C'est qui Ézéchiel? Le prophète. L'Ech ve'achaye metim bebikat dura. Va ressusciter des morts dans la plaine de Doura. N'est-ce pas? Bon, alors c'est quoi cette histoire? Vous vous rappelez donc de la scène des ossements desséchés qui ressuscitent dans la vision du prophète Ézéchiel. Vous vous rappelez de ça? Vous vous rappelez qu'il y a tout un débat que nous avons étudié de savoir est-ce que c'est une parabole ou un fait matériel? Vous vous rappelez de ça aussi? L'opinion dominante est que c'est une parabole et que ça représente la résurrection nationale du peuple juif qui revient sur sa terre. Jusque-là, vous suivez? Très bien. Eh bien, au moment où ça se passe, c'est le moment le plus bas. C'est-à-dire, cette vision apparaît au moment où on en est au plus bas. C'est quoi le moment où on en est au plus bas? Quand on jette des juifs dans la fournaise. N'est-ce pas? C'est à ce moment-là que se prépare le retour. Saisissant, n'est-ce pas? Ça veut donc dire qu'il y a un temps qui est l'essence même de la galoute, c'est-à-dire la tentative d'extermination par le feu, et de ses cendres, le peuple juif ressuscite. D'accord? C'est ça l'image qui est donnée ici par la Gemara. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shehakol nihiya b'dor.
C'est un peu comme l'histoire avec Rabbi Akiva et David.
Ah oui, bien sûr, ça ressemble un peu à Rabbi Akiva et ses amis qui voient le temple dans sa destruction, avec un renard, un chacal qui sort des ruines du Kodesh HaKodashim, et Rabbi Akiva qui se met à rire, parce qu'il voit dans ce point le plus bas, le point d'où on peut remonter. Par définition, il y a un lieu d'où on ne peut que remonter, c'est le lieu le plus bas. Ça, je ne sais pas si vous avez essayé ça, par exemple, si vous êtes dans une piscine, et que vous arrivez jusqu'au bas, jusqu'au fond, eh bien, à part un tout petit mouvement du pied, vous remontez, n'est-ce pas? Donc, en fait, ce qui se passe là, à ce moment-là, viennent les Ézéchiel ressuscite les ossements. Kevan Shechaya Otam, puisqu'il les a ressuscités, Bawat Samot, les ossements sont venus, Vetafrulo Leoto Racha Alpanav, et ont frappé ce méchant sur son visage. Comment c'est-il quoi? Il y avait des ossements chez le roi? Oui, bien sûr. Il avait des ossements dans son palais, c'est-à-dire qu'il conserve dans son système politique la ruine du peuple juif. Et alors, il voit brusquement ses ossements. Amar, Mativan chez les loups. Il dit, mais quelle est la nature de ces choses-là? Amroulo, Haveren chez les loups. Mechaye, Metim, Bevikadura. Leur ami est en train de ressusciter des morts dans la plaine de Doura. Patar ve Amar, et alors le roi proclame Atohi kemar avrevin, vitimohi kemar takifin, malchute malchut alam, vesholtane imdar vedar. C'est de l'araméen. Tu vois, dans la moitié du livre de Daniel est écrite en araméen, hein, l'autre moitié en hébreu. Et donc, il y a des passages en araméen, et là-bas, on voit la réaction du roi quand il voit ce qui se passe dans la fournaise, etc. Il dit Atohi kemar avrevin, ces prodiges, combien sont-ils grands? Vetimohi kemar takifin, ces miracles, combien sont-ils forts? Malchute malchut alam, son empire est un empire éternel. Vesholtane imdar vedar. Son pouvoir se prolonge de génération en génération. Qui c'est qui dit ça? Le roi, Nabucodonosor. N'est-ce pas? Ben, il a vu qu'il se passait quelque chose avec les ossements, qu'ils étaient en mouvement. N'est-ce pas? Oui. Ça veut dire qu'il se rend compte que le peuple juif est en train de revenir. Effectivement, quand il y a le retour d'Israël sur sa terre, les premiers à se rendre compte de l'ampleur du phénomène sont ceux qui sont à l'extérieur, pas ceux qui sont à l'intérieur. C'est-à-dire les goyim. Par exemple, dans le livre de Tehillim, on dit « Beshuv Hashem et Shivat Sion, Ayinu Kecholmim ». Lorsque Dieu ramène les captifs de Sion, nous sommes comme des rêveurs. « Az Yomru Bagoyim, Yigdil Hashem Lasotimele ». C'est alors que parmi les nations, on dira, Dieu a fait de grandes choses avec cela. Et la suite, Yigdil Hashem, la sotimanu. Alors nous dirons, Dieu a fait de grandes choses avec nous. Haïnu semechim, nous en réjouissons. Ce qui veut dire que, quand on vit un événement, on ne se rend pas compte de l'ampleur de l'événement. C'est le principe du En Baal Hanes Makir Beniso. Celui qui vit un miracle ne se rend pas compte du miracle. C'est celui qui est à l'extérieur qui voit le miracle. Et donc, il faut d'abord passer par l'extérieur, les goïms. Quand les juifs ouvrent la radio, ils se demandent qu'est-ce que les goïms ont dit aujourd'hui. Ils entendent à la radio que les goïms ont dit que Dieu a fait de grandes choses avec nous. Ah, si les goïms le disent, alors nous sommes d'accord. Finalement, donc, les juifs aussi sont d'accord de reconnaître l'ampleur de l'événement. Et finalement, ça arrive à tel point que même les religieux sont d'accord. Et en fin de compte, même les rabbins. D'accord? Mais ça commence d'abord par les goïms. Après les juifs, après les religieux, après les rabbins. C'est-à-dire finalement, on s'en rend compte. Ça, c'est le principe. Donc on voit ici que ça commence par les goïms. Effectivement, il y a des goïms qui disent ces choses-là. Il y avait un goï en France du nom de Jean-Paul quelque chose, un existentialiste. Et vers la fin de sa vie, il a dit, Sartre a son élève, Béni Lévy, il lui a dit, tu sais, mon système, ça ne marche pas. Mais, d'ailleurs, il peut y avoir une catastrophe mondiale, une troisième guerre mondiale qui menace la paix du monde. On ne sait pas très bien où tout ça, ça va. Mais, il y a un espoir. C'est le peuple juif. Grâce à son monothéisme et sa foi dans le messianisme et le monde à venir. C'est ça qu'il a dit, oui. Oui, oui, mais Sartre n'avait pas fait teshuva. D'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que Est-ce qu'on peut se demander, est-ce que Sartre, qui était athée, a commencé à être croyant? Certainement pas. Il était resté athée. Mais il affirme que l'espoir du monde, c'est le monothéisme des Juifs. Ça veut dire, en fait, que l'athéisme n'est pas une prise de position philosophique. L'athéisme, c'est une forme d'existentialisme, en vérité. C'est-à-dire, l'athéisme est un existentialisme. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit avec Dieu, c'est un croyant. Quelqu'un qui vit sans avoir besoin de Dieu, c'est un athée. C'est pas une décision, si vous voulez, dans l'absolu. Eh bien, c'est un peu ça qui se passe là. Il y a des gens de l'extérieur qui, eux, voient l'ampleur du phénomène. Il y a un midrash extraordinaire dans le Avot de Rabbi Nathan. Vous connaissez Avot de Rabbi Nathan ? Avot de Rabbi Nathan, c'est un texte parallèle à Maseret Avot, beaucoup plus long, un texte très très long, qui a été écrit par Rabbi Nathan, ou ses élèves. Rabbi Nathan était en fait l'associé de Rabbi Yehuda Hanassi dans la rédaction de la Mishnah. Dans le chapitre 30, il parle du passage de la mer Rouge. Alors il montre ça comme ça. Il dit, lorsque les enfants d'Israël sont arrivés au bord de la mer, Moshe a levé son bâton et la mer s'est ouverte. Et il leur a dit, levez-vous et passez. Koumou, ivrou. Et les Hébreux ont répondu, on ne peut pas, c'est boueux. Et vous comprenez qu'il y a derrière, il y a l'armée du Pharaon menaçante, qui va les massacrer. Et Moshe leur dit, voilà, vous pouvez passer. Il dit, non, mais c'est de la boue. Et alors Moshe fait la prière pour que la boue sèche. Et la boue a séché. Et il leur a dit, passez. Ils ont dit non, on ne peut pas parce que ce n'est pas droit. C'est vrai que c'est sec, mais c'est sinueux. Et Moshe a prié pour que le terrain devienne plat. Et le terrain est devenu plat. Et il leur a dit, eh bien maintenant, levez-vous et passez. On dit, oui, mais ce n'est pas granuleux. Et Moshe a prié pour que le terrain plat devienne granuleux. Il leur a dit, passez. Ils ont dit, mais on ne peut pas. Etc. Et là-bas, dans Yaba, j'ai compté, il y a une quinzaine d'exigences des enfants d'Israël. Non seulement ça, ils veulent également qu'il y ait une voie particulière pour chaque tribu et qu'il y ait des fruits et de l'eau. C'est-à-dire qu'on puisse, au passage, également se nourrir. Enfin, bref, c'est absolument incroyable. Après 15 exigences toutes réalisées par Moshe, le peuple accepte de passer la mer Rouge. Il fait une tova. D'accord ? Alors, vous y croyez, vous, à cette histoire ? Bien sûr, puisque c'était des Juifs. Donc cette histoire est vraie. C'est-à-dire que quand on vit l'événement, on ne se rend pas compte de l'ampleur de l'événement. On a des problèmes, est-ce que vous avez du café au lait, ou est-ce qu'il y a assez de sucre ou pas, etc. Des bêtises de ce genre. C'est ça qui vous préoccupe quand vous êtes dans un événement. Ce n'est que celui qui voit de l'extérieur, qui voit la grandeur de ce qui se passe. Eh bien, on peut dire que c'est un peu ce qui se passe là. C'est le roi Nabucodonosor, qui lui n'a bu que du nosor, et qui se rend compte de ce qui se passe. Amar Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak dit, Yutsak zahav roteach le torpiv shel oto racha. Que de l'or bouillant soit versé dans la bouche de ce méchant. C'est-à-dire qu'il se la ferme. Pourquoi ? Parce que si un ange n'était pas venu pour le gifler, Bikesh leganot kol shirot vetishbachot shamar David beSefer Tehilim, il aurait réduit à néant tous les cantiques et les chants récités par le roi David dans le livre des psaumes. C'est-à-dire qu'on est très embêté quand les goïms se rendent compte de choses qui leur font louer Dieu et que nous n'arrivons pas à nous en rendre compte. Parce que vous avez des Juifs qui disent « Oui, mais le Hallel, Ayom Ha'atzmaout, il y a des Gdolim qui disent que » et trucs comme ça. Oui ? Oui ? Ben, où est-ce qu'il a écrit, le roi David ?
Oui, non, je sais, mais il aurait pu mourir mais autre chose.
Quoi ? Il dit « Si il y avait si un ange n'avait pas giflé le roi, c'est-à-dire qu'il ne l'avait pas fait arrêter, il aurait continué à faire des louanges. Et ces louanges auraient été plus grandes que celles du roi David dans le livre de Tehillim. Voilà, d'accord. Bon. Là, nous allons sauter quelques lignes pour arriver à l'essentiel. Vous passez donc à la page Tzadik Gimel, Amoud Aleph. Vous passez donc à la page à venir, Tzadik Gimel, Amoud Aleph, et vous tombez sur Amar Rabbi Tanchum Bar Hanilai. Amar Rabbi Tanchum Bar Hanilai, ce qui veut dire Rabbi Tanchum Bar Hanilai a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Beshah Shiatsu Hanania, Mishael va Azaria Mikivshanaesh. Lorsque Hanania, Mishael et Azaria sont sortis de la fournaise, Baou Kolumot Aolam sont venues toutes les nations du monde. Vetaprou les Sonehem chez Israël Alpenehem et ont giflé les Hébreux. Amou Lahem, ils leur ont dit Yesh Lachem Eloa Kazé. Vous avez un Dieu comme celui-là et vous prosternez face à l'idole. Miyad, Patrou, Ve'amrou, ils ont immédiatement dit Lecha Hashem Atzedaka, c'est toi Dieu qui est juste, Ve'lanu Boshet Apanim, Kayom Azé, et nous en ce jour, nous sommes pleins de honte. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a dans les époques de tournant historique, il y a une démission de la majorité du peuple et tout tient sur quelques tzadikim. Il y a des moments où tout tient sur quelques individus qui, eux, restent fidèles à la tradition. Maintenant, ces moments-là sont les moments de la galoute. C'est-à-dire que pendant le temps de la galoute, il y a une plus grande importance à l'individu qu'à la collectivité. Et quand on passe de la galoute à la Géoula, l'individu perd de son importance et c'est la collectivité qui devient importante. D'accord ? C'est pour ça que ici dit le texte, je lis la suite. Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Rabbi Shmuel, fils de Nachmani, disait au nom de Rabbi Yonatan. Maï dirtiv, que signifie ce qui est écrit? Amarti ha'ele batamar, ohaza besansinav. J'ai dit que je monterais sur le palmier, sur le dattier, pour m'emparer de ses grappes, de ses grappes. Amarti Heele Betamar, j'avais pensé monter sur le dattier, Elou Israël, il s'agit de tout le peuple juif. Ve'arshav, lo ala biyadi, ela sinsa nechad, mais il ne m'est resté dans mes mains qu'une seule grappe, chez Hanania, Mishael, Va'azaria, qui sont Hanania, Mishael et Azaria. C'est-à-dire que de tout le peuple juif, il est resté trois personnes qui ont sauvé l'honneur, si vous voulez, qui sont Hanania, Mishael, Va'azaria. Il y a un texte dans la paracha de Choukat. Dans la paracha de Choukat, dans le livre de Bamidbar. Il est question là-bas des délégués que Moshe a envoyés au roi de Édom et à Sichon, roi des Émoréens. Lorsqu'il envoie des délégués au roi d'Édom, il est dit « Vaishlach Moshe » Malachim. Moshe envoya des délégués. Lorsqu'il envoie à Sichon, il est dit Vaishlach Yisrael Malachim. Israël envoya des délégués. Qui est le Israël du deuxième cas? Mais c'est juste de Moshe. Comment est-ce que je sais? Parce que dans le livre de Devarim, quand Moshe raconte à nouveau cette histoire, il dit Vaishlach Malachim. J'ai envoyé des délégués. Et de plus, dans le livre de Shoftim, livre des juges, il y a un texte dans lequel Yiftach, le juge, dans sa missive qu'il envoie au roi de Ammon, quand il raconte l'envoi des délégués au roi de Édom, il dit « Vaishlach Israël Malachim ». Israël envoya des délégués. Rashi, dans la paracha de Choukat, dit « Ça veut dire que Israël c'est Moshe et que Moshe c'est Israël ». Et il dit pourquoi ?« Shenesi hador ou kol hador » parce que le prince de la génération, il est toute la génération. « Shenasi ou akol » parce que le prince, c'est lui qui est tout. C'est ça ce que dit Rashi. J'ai cité Rashi mot à mot. Alors, si c'est vrai ce que dit Rashi, que Moshe, c'est l'équivalent de tout Israël, et que tout Israël, c'est Moshe, alors pourquoi, lorsqu'il envoie des délégués au roi d'Édom, il est appelé Moshe? Et quand il envoie des délégués à Sichon, il est appelé Israël? Vous avez compris ma question? Hein? La question est claire? Génial. Eh bien, vous voulez une réponse? Ouais, je vais vous donner la réponse. La réponse est que lorsque Moshe envoie des délégués au roi d'Édom, il est dans le désert. C'est-à-dire qu'il est en exil. Quand on est en exil, ce qui est important, c'est la personne du tzaddik. C'est lui le pilier sur lequel tout repose. Donc on dit Vaishlach Moshe. Tandis que quand il s'approche du pays de Sichon, c'est à l'entrée d'Eretz Israël. Et donc, en Eretz Israël, la personnalité individuelle du tzaddik est estompée au profit du klal. Et donc, c'est en tant qu'émanation du klal que Moshe envoie des délégués. Vous avez compris? Mais non, c'est très grave ce que je dis là, parce que ça veut dire que lorsque on passe de l'exil à l'entrée en Eretz Israël, il y a une transformation que les tzaddikim doivent passer. Il peut y avoir un tzaddik qui a l'habitude d'être le tzaddik du temps de l'exil. Et donc les critères du comportement de tzaddik, il les connaît, mais de l'exil. Il n'est pas adapté à la nouvelle forme d'identité et donc de comportement qu'implique le retour. Il a du mal à supporter l'effacement du tzaddik par rapport au klal. Le tzaddik, tout juif, le bon juif, tout simple, le stam yehoudi, il n'a pas de prétention, lui. Il n'a pas la prétention d'être le pilier. Mais le tzaddik, qui a l'habitude d'être le pilier de sa génération, quand on lui dit, voilà, maintenant tu vas rentrer, ce qui est important, c'est tzahal. Ça l'embête beaucoup, il n'a pas l'habitude. D'accord? Et ça peut donc même créer des réactions politiques, de tzaddikim qui vont vous dire, mais tout ça, ça ne vaut rien. D'accord? Si, il est tzaddik, mais pas de la génération. C'est-à-dire, il y a dans la Gemara, dans Brachot, on parle du tzaddik vetovlo, tzaddik veralo. Le tzaddik qui vit bien et le tzaddik qui vit mal. La souffrance du juste. Et Rabbi Nachman de Breslav expliquait, le tzaddik vetovlo, le tzaddik pour qui ça va bien, c'est tzaddik shehalacha kemoto. C'est le juste qui... dont l'opinion est en accord avec la halakha. Ou disons plus précisément, la halakha est en accord avec son opinion. Tandis que le tzaddik veralo, c'est le tzaddik dont l'opinion n'est pas celle de la halakha. Ou plus précisément, la halakha n'est pas en accord avec son opinion. Alors ça veut dire quoi que quelqu'un est à la halakha en accord avec lui? C'est quoi la halakha? La halakha, ça veut dire le comportement valable dans telle génération. C'est ça qu'on appelle la halakha. Ça veut donc dire qu'il est un tzaddik, mais d'une autre génération, donc il souffre. Il n'est pas fait pour la génération qui vient. Vous avez compris le topo? Hein? Eh bien, il a oublié de changer. C'est exactement le cas du tzaddik Yov, dans le livre de Job, on dit en français. De Job, vous avez un tzaddik, qui est un pur tzaddik, un vrai tzaddik. Comment? Il a fait un bon job. Elle est très bonne, j'y avais pas pensé. Voilà. Donc, c'est un tzaddik. Et toutes les semaines, il fait des sacrifices pour expier les éventuelles mauvaises pensées de ses enfants. Ça veut dire qu'il est sûr d'être tzaddik pour lui-même. Il n'est pas sûr que sa manière d'être tzaddik sera perpétuée dans la génération à venir. C'est parce qu'il vit à une époque de tournant historique. Quand on vit à une époque de tournant historique, alors on risque d'être le tzaddik souffrant. C'est-à-dire que Iov est encore une approximation de ce qu'il devrait être. Il est tzaddik, mais il n'est plus le tzaddik de la génération. Vous avez compris ? Ouais, ça peut être le cas pour Noir. Qui ne voyait que du noir. Et il y a dans la Torah, dans la paracha de Kitetsé, vous avez une instruction de la Torah qui est, lorsque tu as un problème, il faut que tu ailles voir le juge. Uvata et la chauffette, tu viendras chez le juge. Asher yiyé bayami mahem, qui sera en ces jours-là. Bata et la chauffette, Asherie Baemahem, tu iras chez le juge qui sera en ces jours-là. Ça a l'air complètement banal ce que la Torah nous dit. Il est évident que si je suis chez un juge, c'est un juge qui est vivant. Je vais donc chez le juge qui est de mes jours. En quoi est-ce que la Torah a innové quelque chose ? Alors Rashi amène un enseignement qui dit : ne te dis pas que les juges antérieurs étaient meilleurs. Tu n'as que celui de ta génération. À nouveau, ça ne tient pas la route. Peut-être qu'effectivement, le juge de la génération d'avant était meilleur. Et puis, même si je pense que le juge de la génération d'avant était meilleur, de toute façon, je n'ai pas le choix. Je ne peux aller que chez le juge de ma génération. Alors, qu'est-ce que veut dire Rashi ? C'est pas ce que dit quoi ? Oui, en plus, dans la Amida, on dit très bien que nous voulons revenir au juge d'antan. Donc ça veut dire qu'il est tout à fait possible que les juges d'antan étaient meilleurs. Alors pourquoi est-ce que Rashi nous dit, ne dit pas que... Ça veut dire qu'en fait, parmi les juges qui sont de ton époque, tu dois aller chez celui de tous les juges qui est dans tes jours. C'est-à-dire qu'il y a des juges qui vivent aujourd'hui, mais qui ne sont pas de nos jours. Ce sont des juges d'une autre époque. Et ils fonctionnent selon des critères d'un temps révolu. Et donc, ce que te dit Rashi, ne t'imagine pas que celui qui ressemble au juge de la génération antérieure, c'est chez lui qu'il faut aller. Il faut aller chez le juge qui connaît sa génération. Shofet Shebeya Mecha, le juge qui est dans tes jours. Alors maintenant, il faut savoir comment définir. Quand est-ce qu'il peut avoir un problème de ce genre ? Quand il y a un tournant historique. Alors, c'est quoi un tournant historique ? Il y a deux sortes de tournants historiques importants chez les Juifs. Sortir en exil ou sortir de l'exil. Or, qu'est-ce que dit la Torah ? Au début de la paracha de Kitetsé, elle dit la chose suivante. Tzedek, tzedek, tirdof. Justice, justice, tu chercheras. Leman tichye, afin que tu vives. Veyarashta et taaretz, et que tu prennes possession de la terre. Que Dieu te donne. Et ça veut dire quoi ? Justice, justice. Alors, pourquoi deux fois justice ? Rashi nous dit, Halach achar bedin yafe. Il faut que tu cherches un bon tribunal. Bedin yafe. Ce qui suppose qu'il y a un tribunal qui n'est pas bon. N'est-ce pas ? C'est-à-dire que Tzedek, Tzedek, doublement juste. Non seulement il fait la justice, mais il fait justement la justice. D'accord ? On peut faire la justice sans la faire de manière juste. Il faut faire la justice avec justice. Donc Tzedek, Tzedek, Tirdof. Il faut aller chez le bon tribunal. Et comment savoir qui est le bon tribunal ? La suite. Les man tichye veyarashta et haaretz. Afin que tu vives et que tu hérites de la terre. Rashi. Kedaihu minuy hadayani maksherim. Le mérite d'avoir nommé des bons juges, les achayot Israël entraînent de faire vivre Israël, ou les oshivan al admatan et de les installer sur leur terre. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que un bon juge est un juge dont la conséquence de ses décrets, c'est qu'il se passe deux choses. Qu'Israël vit et qu'il est installé sur sa terre. Alors ça voudrait dire quoi un mauvais juge ? Ça voudrait dire un juge qui décide qu'il y a contradiction entre le fait de vivre et d'être sur la terre. Et qui dirait donc, s'il faut pour vivre, ne pas avoir la terre, il vaut mieux donc donner la terre pour pouvoir être en vie. Tandis que le bon juge, c'est celui qui sait que pour vivre, il faut être sur la terre. Oui ? Bien sûr qu'on peut aller voir un juge en galoute. Mais le juge en galoute, il n'a pas de problème d'installer Israël sur sa terre. Il est là, il n'est pas sur la terre. Mais non, ça peut être un juge qui empêche d'aller sur la terre. Je vais donner un exemple de ça, un exemple historique. Il y avait à Prague, il y a 350 ans à peu près, il y avait un groupe de familles qui avait décidé de monter en Eretz Israël. Avec les enfants, les vieillards, les femmes, tout ça. Ils étaient organisés et le Beit Din de Prague leur a interdit de partir. Pourquoi ? Parce que vous allez, le voyage sera pénible pour les enfants en bas âge. Donc, vous n'avez pas le droit de partir. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les familles en question ? On ne peut pas transgresser l'ordre du Beit Din. Le Beit Din a interdit d'aller en Eretz Israël. D'accord, mais il n'a pas interdit de sortir de Prague. Alors, ils sont sortis de Prague. Une fois sortis de Prague, ils ne sont plus sous l'autorité du Beit Din. Ils envoient une question à un des grands maîtres de l'époque, le Rav Yonah Brandsdorfer, pour lui demander, est-ce que nous devons écouter le Beit Din ou pas ? Et le Rav Brandsdorfer leur répond, mais pas du tout, parce que nous n'avons pas de devoir de respecter le Beit Din plus que nous devons respecter nos parents. Or, quand nos parents nous disent de ne pas accomplir une mitzvah, on ne doit pas les écouter. Donc si le Beit Din vous a dit de ne pas monter en Eretz Israël, vous y allez quand même. D'accord ? Oui. Oui, mais ça, non, ça tient à une époque où le problème se pose. Or, ça ne se pose pas à toutes les époques. D'accord ? Par exemple, du temps de Rashi, la question ne se posait pas tellement. N'est-ce pas ? Bon, ça, c'était simplement pour comprendre de quoi il s'agit. Vous avez donc un moment dans l'histoire où ce sont les tzadikim, en tant qu'individus, qui donnent la lumière à Israël. Il y a des moments où ce n'est plus les tzadikim. Maintenant, je continue la suite. Verabanan le'echa azlu. Vous y êtes ? Je saute à nouveau quelque chose comme 5-6 lignes et je tombe sur Verabanan le'echa azul ou azlu. C'est dans l'édition Vilna, c'est la quatrième ligne large, là où il y a deux points. Dans l'édition du Rav Steinsaltz, ce n'est pas au même endroit, mais je suis dans l'incapacité de vous dire exactement où c'est. Verabanan le'echa azlu. Vous y êtes ? Non, on va vous dire ça tout de suite.
C'est où ça, là ? Ah, ben, d'accord. C'est, donc, vous prenez au coin, là où, où l'écriture fait un coin. Verabana, l'Echa Azlou. Et nos maîtres, où sont-ils allés ? C'est qui nos maîtres ? Après le miracle de la fournaise, quand ça fait énormément de bruit, qu'est-ce qu'ils ont fait, Hanania, Michel et Azaria ? On n'entend plus parler d'eux dans le livre de Daniel. Ils disparaissent. Qu'est-ce qui leur est arrivé ? Alors, nous avons ici trois opinions intéressantes. Amar Rav, Be'aina Ra Metu. Ils sont morts du mauvais œil. Ou Shmuel Amar, Barok Tavou. Et Shmuel dit, ils se sont noyés dans le crachat. Ah bon, c'est quoi ça ? Ça veut dire que ils sont morts du mauvais œil, ça veut dire la jalousie des nations les a fait disparaître. C'est ça, la jalousie, le mauvais œil, c'est quoi ? C'est la jalousie. C'est comme quelqu'un qui est très jaloux de son prochain, il va voir un spécialiste du mauvais œil. Et il lui dit, est-ce que tu ne peux pas jeter le mauvais œil sur le champ de celui-là là-bas ? Il dit, qui c'est celui-là ? Celui-là, là-bas, en haut de la montagne. Où ça, en haut de la montagne ? Entre les deux arbres, là-bas, tu vois bien ? Il dit, tu vois si bien que ça, toi ? Il devient aveugle. D'accord ? Et donc, c'était une vanne, évidemment. Il y a Shmuel qui nous dit qu'ils sont morts dans le crachat. C'est-à-dire, quand les nations ont craché au visage d'Israël, ils se sont noyés dans le crachat. Ça veut dire quoi ? C'est la honte qui tue. D'accord ? On dit qu'aujourd'hui, la honte ne tue plus personne. Il fut une époque où la honte tuait. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan a dit qu'ils ont fait autre chose, Hananiah, Michel et Azaria. Alou l'Eret Israël. Ils sont montés en Eret Israël. C'est la conséquence de ce genre de situation intolérable, c'est qu'il faut remonter. Venas Onashim, ils ont épousé des femmes. Volidou Banim ou Banot, et ils ont engendré des fils et des filles. Ketanae, ce débat entre Rav, Shmuel et Rabbi Yochanan, se retrouve également chez les Tanaïm, qui sont antérieurs. Rabbi Eliezer Omer, Be'ain Aram et tout. Rabbi Eliezer disait qu'ils sont morts du mauvais œil. Rabbi Yoshua Omer, Barok Tavou. Rabbi Yoshua dit qu'ils sont, se sont noyés dans le crachat. Ve'chachamim Omrim, et les sages disent, Alou l'Eretz Israël, Ve'naseu, Nashim, Volidou, Banim, Banot, etc. Et puis après, je saute deux lignes et j'arrive à Védaniel. Et Daniel, qu'est-ce qui est arrivé à lui, n'est-ce pas? Védaniel et Hanazal. Parce que tout ça s'est raconté dans le livre de Daniel. Et donc Daniel était présent lors de cette histoire de la fournaise. Après la fournaise, qu'est-ce qui lui est arrivé à Daniel? Amar Rav. Alors là, nous avons également trois opinions sur ce qu'a fait Daniel. C'est quoi Daniel? Daniel, c'est le juif de cour. C'est celui qui assure la protection juridique et l'autonomie juridique des Juifs pendant le temps de l'exil. Il est vice-roi. Pas n'importe qui, Daniel. Amar Rav, Rav disait qu'il était parti les Mihra Nahara Rabba Bitveria pour creuser un grand canal près de Tibériade. C'est-à-dire, Rava a quitté, selon Rav, Daniel a quitté Babylone, Babylone, pour aller creuser un canal près de Tibériade. C'est absolument incroyable ce qu'a dit la Guémara. C'est quoi creuser un canal près de Tibériade? Vous savez qu'il y a un canal comme ça aujourd'hui, ce qu'on appelle le Movila Arti. C'est qu'une très grande partie de l'irrigation du pays d'Israël aujourd'hui, c'est grâce à un canal qui sort du lac de Kinneret et qui distribue de l'eau dans tout le territoire, jusqu'au Negev. C'est ça? C'est-à-dire, en fait, ce qu'est parti faire Daniel, est allé faire du sionisme. Du sionisme terrestre. Ou Shmuel Amar, et Shmuel dit, Leatouye Bizra de Aspasta, qu'il est allé chercher du fourrage pour les bêtes du roi. C'est à quoi sert un juif de cour? S'il reste en galoute, ben il s'occupe de l'économie. Il va s'occuper du fourrage des bêtes du roi. D'accord? C'est-à-dire, vous avez toujours un économiste juif dans toutes les cours des pouvoirs importants dans le monde. Un peu comme Yosef. Chez Yosef, il y avait seulement un danger. C'est la femme de Poutifar quand elle lui dit « Tu es à moi, à ta lit. » Et c'est là que donc il y a toujours le danger d'avoir une position importante dans l'économie des nations. C'est le danger de du mariage mixte. N'est-ce pas? Ce qui était également une vanne, mais enfin, c'est pas grave. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan a dit, Leatouye Hazire d'Alexandria chez Mitzrayim. Il était parti pour amener des petits cochons d'Alexandrie d'Égypte. Et des cochons en Égypte. Et donc, il est allé chercher des cochons. Oui? Eini, est-ce vraiment possible, dit la Gemara. Ve'atania, alors que nous avons un enseignement, Todus a refait Amar, que Todus, le médecin, a dit, En para ve'chazira, yotsem Alexandria shel Mitzrayim, shen chotrimahem shel abishul shel otelen. On n'a jamais vu une vache ou une truie sortir d'Alexandrie d'Égypte, à laquelle on n'enlève pas sa matrice pour qu'elle ne puisse pas enfanter. Zoutre Haïté, Beloda Atayou, il a amené des tout petits sans qu'ils s'en rendent compte. C'est-à-dire qu'il a passé la douane avec des tout petits cochons, et donc personne n'a fait attention. Vous y croyez, n'est-ce pas? C'est marqué, donc c'est vrai. Ouais. C'est quoi l'histoire des cochons d'Alexandrie? D'abord, c'est quoi Alexandrie? C'est la capitale de l'Égypte dans l'Antiquité, n'est-ce pas? C'est vrai que ça a été fondé un peu après Daniel, mais enfin, les anachronismes ne dérangent pas la Guémara. Ça veut dire que l'Égypte, c'est le lieu d'où tout vient. Israël vient d'Égypte. Et
parfois il faut renaître, il faut se ressourcer, et donc il faut recommencer avec l'Égypte. Les Havdil, les chrétiens, quand ils ont voulu réinventer l'histoire, ils ont fait descendre leur fondateur en Égypte pour l'en faire sortir à nouveau. Et pour dire, il n'y a plus besoin de peuple juif, il y a un individu qui remplace le peuple juif. D'accord ? Donc il l'envoie en Égypte. Comment ? Ah ben oui, ça s'appelle la fuite en Égypte, c'est le grand truc ça dans les évangiles, ils ont plein de trucs comme ça. Et donc il y a Jésus qui part en Égypte, il est persécuté, il revient d'Égypte parce que Dieu a dit c'est d'Égypte que j'ai appelé mon fils, donc c'est l'histoire-là, un truc comme ça, c'est incroyable. Mais il y a du vrai là-dedans, le vrai là-dedans c'est qu'il y a des moments où il faut renaître. Or le moment où ça se passe, cette histoire de Hanania, Michel et Azaria, c'est le moment d'une renaissance. Donc il faut partir en Égypte. Il faut partir en Égypte pour revenir. D'accord ? C'est ça les cochons. C'est quoi ? D'abord, c'est quoi un cochon ? Un cochon, la Guémara nous dit ailleurs que c'est l'animal le plus riche du monde. Parce qu'on se sert de toutes ses parties. L'être attire mechazira. Toutes les parties du corps du cochon sont utilisables. Hein ? Tout est bon dans le cochon. N'est-ce pas ? Y compris, d'ailleurs, il y a un tire-bouchon, d'ailleurs, qui est à ceux qui a ajouté, en bonus, etc. Donc, c'est ça que ça veut dire. Daniel comprend qu'il faut faire une renaissance, et donc il parle à part. D'ailleurs, c'est peut-être pas pour rien, c'est certainement pas pour rien, que le grand maître de la Kabbale dans les derniers siècles, le Hari, a commencé son étude en Égypte, dans une cabane auprès du Nil, et qu'après il est revenu en Eretz Israël. C'est ça ? Oui ? Non, le cochon, c'est Rome. Les Romains avaient le cochon comme emblème.
Il dort les pattes en l'air.
Oui, c'est vrai. C'est Rome, et après, c'est la chrétienté.
Si vous voulez faire venir des cochons en Égypte, c'est pas, vous voulez peut-être pas faire rentrer l'Occident en Orient ?
Ah, je sais pas. C'est pas impossible. Oui. Bon, oui. Déjà, le cochon, ça peut être un sanglier. Enfin, bref, peut-être, c'est possible. Bon. Continuons. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné. Shlosha ayu beota etza. Trois ont été d'accord d'un même conseil, ont été d'un même conseil. Qui sont les trois? Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. Daniel. Unvuchadnetzar et Nabucodonosor. C'est-à-dire, les trois ont été d'accord de faire la même chose. Akadosh Baruch Hu Amar, le Saint béni soit-il, a dit. Neizil Daniel Meacha, il faut que Daniel parte d'ici. C'est-à-dire, lorsqu'il y a eu l'événement de Hanania, Michaël et Azaria, Dieu a dit qu'il faut que Daniel ne soit pas présent. Pourquoi ? Dela lemru bisrute itnetzal, pour qu'on n'aille pas dire que c'est par le mérite de Daniel que Hanania, Michaël et Azaria ont été sauvés. Pourquoi pas ? C'est si grave que ça qu'on dise que c'est par le mérite de Daniel ? Parce que dans ce cas-là, ça mettrait un accent trop fort sur le mérite du tzaddik. Daniel ama, et Daniel lui-même a dit, Eizil me'acha, je vais partir d'ici. Dela likayem bipsile elohem tisrefun ba'esh, pour qu'on n'aille pas accomplir contre moi le verset. Tu brûleras les idoles de leur Dieu dans le feu. Vous avez compris ? Non ? Daniel a dit, je dois partir d'ici pour qu'on n'accomplisse pas contre moi le verset, tu brûleras les idoles de leur Dieu dans le feu. Pas compris ? Alors je vais expliquer. Daniel a été divinisé par Nabucodonosor. Quand il a vu qu'il était capable d'expliquer les rêves, d'interpréter les rêves, etc., il a rendu un culte à Daniel. Donc Daniel a été divinisé. Qu'est-ce que dit la halakha ? Qu'est-ce qu'on fait d'un faux dieu ? On le brûle. Et donc Daniel s'est dit, puisque j'ai été divinisé par Nabucodonosor, je risque d'être brûlé. Il n'a pas le même mérite que Hanania, Michaël et Azaria. Ça veut dire qu'il y a une tendance chez les goyims, pendant le temps de la galoute, de prendre un juif et de le diviniser.
Et donc, si Daniel était resté dans la cour du roi Nabucodonosor, aurait été fondé un culte, universel peut-être, divinisant un juif, que l'on veut brûler également. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a écrit après? Ah oui, c'est ça. Unvuchadnezzar Amar, et Nabucodonosor aussi a dit, Yezil Daniel Meacha, il faut que Daniel parte d'ici. Dès là, les mots, pour qu'on n'aille pas dire, Kalie le Elahe Benoura, que Nabucodonosor a brûlé son Dieu dans le feu. Uminaï de Sagile, comment nous savons qu'il lui a rendu un culte, dirtiv, ainsi qu'il est dit, Bedaïn, Malka, Nebuchadnezzar, Nafal, Alanpoi, ou Daniel Segid, c'est alors que le roi Nabucodonosor tomba sur sa face et se prosterna à Daniel et dit de lui amener des offrandes. C'est pas? C'est-à-dire que on voit ici dans la Guémara la tension qu'il y a entre la centralité du tzaddik pendant le temps de la galoute et la nécessité d'effacer le rôle central du tzaddik pour pouvoir sortir de la galoute. D'accord? Tout ça c'est dit d'une manière extrêmement diffuse par la Guémara, mais en fait c'est très clair quand même. D'accord? Bon, après, il faudra passer à autre chose. La prochaine fois, notre étude sera sur un texte dans la page Tzadik Dalet. Ceux qui font photocopie, qui sachent que c'est dans la page Tzadik Dalet Amud Aleph que nous allons nous concentrer la prochaine fois. La prochaine fois, c'est la semaine prochaine. D'accord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.